Alors nous lisons ce matin, tout d'abord dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 1 à 14. Ce texte bien connu suit un épisode où Moïse, assistant à la maltraitance de ses frères par un garde égyptien, le tue et s'enfuit. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Oui, répondit-il. Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit, « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel, le pays où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Moïse répondit à Dieu, « Moi, je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, reprit Dieu, et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je ? Dieu déclara à Moïse, « Je suis qui je suis, voici donc ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Ensuite, deux petits textes, l'un dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 5. Je veux que vous vous rappeliez, frères, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection du nuage, et ils ont tous passé à travers la mer Rouge, dans le nuage et dans la mer. Ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. Et pour terminer, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, les versets 6 à 9. Puis Jésus leur dit cette parabole, il s'adresse à ses disciples. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient y chercher des figues, mais n'en trouve pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, Laisse-le cette année encore, je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine, sinon tu le feras couper. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 222 les trois strophes. La moisson du monde suscite au Dieu des moissonneurs que ton esprit sur eux descende et tous tes serviteurs et que ton règne glorieux s'étend sous tous les cieux. Revêt de force leur faiblesse et saint leur rein. Cœur de charité et que ton règne glorieux s'étend ainsi sous tous les cieux. Hâte ce jour ô notre Père. Cet heureux jour qui doit venir, où devant toi sur notre terre, tous nous verrons et que en gâtant. Seigneur, ouvre maintenant nos oreilles et nous entendrons ta parole malgré le tumulte de nos journées. Ouvre nos yeux et nous verrons ta parole malgré les ténèbres de notre monde. Ouvre notre vie et nous accueillerons ta parole malgré la fragilité de notre foi. Ouvre notre cœur et nous vivrons ta parole malgré l'aridité de nos combats, et tu ouvriras nos lèvres pour que nous puissions dire ta parole partout où tu voudras qu'elle soit dite. Lire la Bible est toujours une aventure d'autant plus incertaine qu'on ne choisit pas les passages que l'on lit en fonction de l'actualité, qu'elle soit celle du monde, celle de notre pays, de notre Église ou de notre vie personnelle, mais qu'on choisit de se plier, c'est ce que je fais, à cette discipline des textes du jour proposés par nos Églises. On est alors pris parfois au dépourvu. Mais par-delà la surprise, on entame alors comme une sorte de pèlerinage, un exode, une sortie de soi-même, un chemin qu'on n'avait pas prémédité mais qui toujours prend du sens au fur et à mesure qu'il se déroule. Et c'est d'ailleurs là certainement l'assurance de ne pas se laisser aller à la dérive d'une actualité par trop sélective et de s'amarrer à un rocher qui se présente à nous dans les déserts de nos errances. Et c'est donc ce qui m'est arrivé en lisant et en relisant ces passages de l'Exode, de l'Épître de Paul aux Corinthiens et de l'Évangile de Luc. Bien sûr, dans l'Épître de Paul, il est fait allusion à Moïse et au peuple dans le désert. Cela nous renvoie donc au livre de l'Exode. Mais à part ce renvoi littéraire, la proximité du propos est peu visible. Quant au texte de Luc sur le figuier stérile, à première vue, il ne présente aucune possibilité de rapprochement ou d'écho avec les deux autres. Et pourtant, enraciné dans cette confiance faite à ses frères inconnus, qui ont procédé à ces choix, doublé d'un peu d'entêtement, j'ai persisté, et voilà donc que ce matin j'en viens à vous proposer quelques réflexions auxquelles je vais tenter de donner un peu de cohérence à partir de ces trois textes. Alors tout d'abord, je vous parlerai de cette scène primitive que nous rapporte le livre de l'Exode. Toutes les civilisations, vous le savez, se rapportent à une scène primitive, à un mythe fondateur, diront certains. Un mythe, d'ailleurs, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une mystification, c'est simplement un récit transmis oralement, puis parfois écrit, un peu basique, qui structure une société, qui explique certaines de ses pratiques et révèle un sens à ce qui parfois est obscur. Ensuite, avec le texte de l'Épître de Paul, j'essaierai de vous montrer à la fois la pérennité de cette scène primitive, sa persistance par-delà les siècles, et en même temps son déplacement. Et le troisième texte de l'Évangile de Luc nous éclairera sur la signification existentielle de ces récits fondateurs, leurs enseignements, que je résumerai par cette phrase « Il est moins tard que tu ne penses ». Et bien entendu, convaincu que notre lecture est en dialogue avec la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, j'en tirerai quelques conclusions provisoires susceptibles de contribuer à l'annonce de quelques bonnes nouvelles que l'espérance qui nous anime nous permet de dire aujourd'hui dans notre monde qui va quelque peu à la dérive. Alors, tout d'abord, ce texte de l'Exode, où Moïse, dans un buisson ardent, croit reconnaître une présence qui va bouleverser sa vie et probablement, enfin, lui donner un sens. Il est vrai que Moïse, depuis sa naissance, est en quête d'identité. Une identité qui, jusqu'à ce moment, est un peu à la dérive, à l'image de ce petit radeau de fortune ballotté par les eaux du fleuve, dans lequel il a été trouvé parmi les marécages peuplés de roseaux qui le bordent. Coincé entre deux héritages, celui de ce peuple asservi, ce sous-prolétariat qui, au dire des Égyptiens dominateurs, devient si nombreux qu'il menace la cohésion de la nation, et celui de cette cour pharaonique qui l'a recueilli et a fait de lui une espèce de mutant étranger partout. Étranger parmi les puissants, étranger parmi les esclaves, la tension est insoutenable. Et il suffit d'une étincelle pour que le drame éclate. Le drame, c'est ce meurtre qu'il accomplit, cet Égyptien qu'il tue parce qu'il le voit maltraiter des Hébreux. Un meurtre qui est le symptôme de cette antique solidarité qui vient l'étreindre, surgit d'un inconscient qu'il ne maîtrise pas et qui lui révèle une appartenance qu'il avait oubliée. Il semble d'ailleurs que dans un premier temps, l'inquiétude d'être découvert ne le touche pas. Il est vrai que ce peuple dont il prend la défense par son geste n'est pas encore un peuple. Il est plutôt une collection improbable d'êtres démunis, asservis, qui ne sont pas prêts, loin de là, à se lancer dans une histoire libératrice. Ainsi, Moïse, finalement découvert et en passe d'être dénoncé par ceux-là même dont il aura la charge, à ce moment-là, loin d'avoir l'âme pleine de bravoure pour organiser une insurrection, n'a pas d'autre issue que de fuir et de se refaire une santé, une famille, une religion, dans un lieu qui le met à distance de ses filiations multiples qui le déchirent. Moïse croit alors avoir trouvé la paix par ses propres forces en se forgeant une identité de secours qu'il croit indemne des histoires anciennes qui se bousculent dans sa tête. Mais voilà que l'histoire le rattrape et qu'un événement mystérieux va survenir et le déranger dans sa vie réorganisée. Une voix surgit d'un phénomène bizarre, lui intime tout d'abord d'ôter ses sandales. Ce n'est rien à première vue, une anecdote sans importance, mais il s'agit de remettre littéralement les pieds sur terre, de sentir sans médiation un sol ferme, de réatterrir. Après la tentative de se refaire, comme on dit communément, par des artifices de circonstances, il s'agit maintenant pour lui de reprendre racine, d'ouvrir les yeux et d'accepter une rencontre déterminante, une rencontre véritable, avec à la clé une mission à vue humaine impossible. Cette rencontre avec Dieu, car il s'agit de Dieu, bien sûr, va sortir Moïse de la léthargie bienheureuse dans laquelle il s'était installé. Mais il faut le dire, ce Dieu n'est pas un Dieu comme les autres. Tout d'abord, c'est un Dieu qui bouge, un Dieu en mouvement, on pourrait dire en exode. Au fond, ce Dieu, qui après tout semblait bien tranquille dans son ciel lointain, indifférent sinon sourd, un peu impassible sinon figé, se révèle proche, proche de ceux qui crient leur désespoir, proche de ceux qui attendent par-delà leur souffrance une libération faite de paix et de justice. Et ce Dieu réclame à son tour une coopération, une aide. Ce Dieu ne peut pas se passer des hommes, de certains hommes, pour que le monde vive selon l'espérance qui le tient aux entrailles. Dans ce monde paralysé dans ses rapports violents, Dieu, en quelque sorte, met en jeu son existence pour remettre du jeu dans un monde accablé, étranglé par les folies meurtrières qui l'enchaînent, le défigurent et le dénaturent. Renonçant à la figure lointaine d'un créateur qui laisse voguer à volo une humanité à la dérive, Dieu se révèle dans une proximité risquée. Mais c'est à ce prix que d'impossibles possibilités vont pouvoir se mettre en œuvre. Et c'est pour cela que Dieu ne se nomme pas, ou plutôt qu'il répond, lorsque Moïse l'interroge, par un subterfuge qui ouvre sans limite tout le champ des possibles. La seule réponse que Dieu donne vraiment à Moïse, c'est « Va, maintenant, je t'envoie. » Quant à son nom, autour duquel nombre d'exégètes se sont questionnés, « Je suis qui je suis, je suis qui je serai qui je serai », je retiens une lecture. « Qui je suis, vous le verrez bien. » Ou mieux encore, « Vous allez voir qui je suis. » Une menace à peine voilée pour ceux qui dominent, une espérance pour ceux qui souffrent. Ainsi, dans cette rencontre avec ce Dieu qui fournit un socle solide à la mission de Moïse, qui au passage se retrouve enfin lui-même centré sur le sol ferme d'une parole qu'il envoie, se forge un avenir où toutes les libérations pourront venir puiser l'eau vive de toutes les insurrections, de toutes les résurrections, lorsque le présent enfermé dans les nécessités d'un destin qu'on n'a pas voulu est trop lourd à porter. Cet avenir, Paul l'apôtre, rattrapé in extremis par quelqu'un qu'il n'a jamais vu, rencontré sur un chemin dont le nom sonne aujourd'hui tragiquement à nos oreilles, dans un rapprochement surprenant, va nous en donner la clé. Ici résonne particulièrement son slogan, pourrait-on dire, « Frère, le temps s'est raccourci, le temps s'est contrasté ». Si le texte de l'Exode, je le disais, a une petite consonance mythique, et prend des allures de conte merveilleux. Vous savez, la vieille formule, il était une fois, in illo tempore en latin, dans ce temps illustre, révolu, passé, où les dieux conversaient avec les hommes. Ici, dans cette épître, Paul rappelle, avec force, que ce temps d'autrefois est aussi le temps présent. Ou plutôt que ce présent qu'il a partagé il y a peu avec le Christ, ce présent était déjà à l'œuvre du temps des Hébreux sur le chemin malaisé de leur libération. Ce roc auprès duquel il se désaltérait dans le désert, c'était le Christ lui-même. Ce Dieu toujours un peu voilé, que ce soit dans la colonne de nuée ou dans la colonne de feu, déjà là dans le buisson ardent, ce roc a maintenant un visage d'homme. Un homme qui, ainsi que le rapporte l'évangile de Jean, lorsqu'on le questionne sur son identité, dit volontiers « Je suis », pour dire simplement la persistance personnifiée de la vie à travers le temps. Ce Dieu fait homme, ce « Je suis éternel », non seulement parle aux hommes, mais vit avec eux, partage leurs joies, leurs douleurs, leurs contraintes les plus domestiques, pourrait-on dire. Et surtout, cet homme est le visage de tous les hommes, qui, quel que soit le nom de leur souffrance, aspirent à ce que les mâchoires du destin se desserrent. Les Corinthiens, auxquels Paul s'adresse, sont un peu de la même mouture que ce peuple antique qui souffre et soupire vers le ciel. Corinthe, 500 000 habitants, dont deux tiers d'esclaves, et une infime minorité scandaleusement riche. Une communauté en quête d'identité, prête à se jeter dans les bras de n'importe quel marchand d'illusions séductrices. Une ville violente, multiculturelle, multiethnique, à la recherche de ses raisons de se vouloir encore un avenir commun. Corinthe, dans son foisonnement commercial, intellectuel, religieux, est aussi une ville, une collectivité à la dérive. Corinthe, dans sa quête d'avenir un peu paniquée, est au bord de l'effondrement, de la noyade, ballottée dans le flot des contradictions qui la submergent. Corinthe, comme Moïse d'ailleurs, bégaye son histoire et finalement est en train de se fermer tout avenir en s'enlisant dans un statu quo où la loi du plus fort et la méfiance à fleur de peau génèrent cynisme et désespérance. Et Paul rappelle à cette communauté qu'elle peut s'amarrer à un rocher bien vivant et présent, qui a pour visage celui du frère, celui du prochain. D'ailleurs, il est symptomatique que Paul, s'adressant à ce peuple cosmopolite, invoque les pères, nos pères, lorsqu'ils étaient au désert. Et ici, ne nous méprenons pas, Paul ne veut pas leur assigner une identité superficielle comme celle de nos anciens manuels d'histoire lorsqu'ils évoquaient nos ancêtres les Gaulois, mais il veut simplement rappeler que ce qui par-dessus tout caractérise l'humanité véritable, c'est la fraternité. Une fraternité qui, si de nos jours, est manifestement le parent pauvre de notre devise, est pourtant la vérité ultime qui peut nous tenir ensemble. Alors oui, il y a à travers le temps qui s'écoule une permanence à laquelle tous peuvent s'amarrer, loin des tourbillons du grand fleuve bouillonnant, une source intarissable, un roc inébranlable. C'est cette figure du frère, vulnérable, fragile, qu'il nous faut coûte que coûte défendre, relever, sauver, qu'il faut sortir de sa résignation, à qui il nous faut sans cesse redonner de l'espérance pour entrer en résistance avec lui, en insurrection, une insurrection sans haine, rappelait Paul Ricoeur, mais qui, à l'image du Christ, en insurrection lui-même contre les puissants politiques et religieux du moment, en sacrifiant sa propre vie, incarna dans notre histoire la vie imprenable, qui ne craint aucune oppression, qui ne démissionne devant aucune domination, parce que le tombeau est vide à jamais et que le premier-né de l'humanité renouvelée bouscule le temps et y ouvre des brèches pour des chemins de libération, de justice et de paix. Et pour aller vers la conclusion, j'en viens à évoquer cette parabole du figuier stérile que raconte Luc. Sur ces chemins d'attente et de promesses, de résistance et de libération qui parcourent nos textes, loin des paradis inaccessibles comme des actualités toujours décevantes, c'est de notre responsabilité dont il est question. C'est notre responsabilité qui est en jeu et qui est appelée maintenant à mettre du jeu dans ces histoires, celles des Hébreux comme celles de Corinthe, comme la nôtre, si souvent fermée sur elle-même. Tout d'abord, ce dialogue, on pourrait dire d'égal à égal, de l'homme, le vigneron, avec Dieu, le maître de la vigne. Un Dieu qui, sorti de son inflexible distance, se laisse infléchir lorsqu'il veut mettre un terme à une situation qu'il juge inacceptable. Dieu consent à ce dialogue et se range au désir de son collaborateur. La terre s'épuise, dit Dieu au vigneron. Et au passage, nous en savons quelque chose, nous qui, au XXIe siècle, voyons se profiler l'épuisement définitif de notre cadre de vie. Il y a donc urgence, mais une autre urgence que celle qui vient d'être décrétée en France, une urgence qui doit engendrer une prise de décision et surtout une action qui s'enracine dans un changement de comportement, dans une conversion, dans une volte-face, une repentance qui, pour être efficace, doit être libre de toute culpabilité. Dans la vie personnelle ou collective, souvent des erreurs sont commises, des routes s'avèrent être des impasses. Ce fut le cas, entre autres, lorsque le peuple hébreu au désert se tourna vers le veau d'or. C'était le cas à Corinthe lorsque la communauté des croyants se déchira sur des questions d'identité et oublia la fraternité. Et c'était visiblement le cas encore avec les négligences du vigneron. Et c'est certainement notre cas lorsque nous restons indifférents et impassibles devant les souffrances qui nous entourent. Ce que dit ce texte sur le figuier stérile, c'est qu'il n'y a jamais de situation de nécessité incontournable. On peut toujours faire autrement. Peut-être que le vigneron n'avait jamais pris la peine de tout mettre en œuvre pour que ce pauvre figuier soit fécond. Apparemment, ce n'est que dans l'urgence qu'il va bêcher et mettre du fumier. Peut-être ne l'avait-il jamais fait. Et ce qui me touche, c'est qu'il ne se justifie pas, il ne cherche pas à se justifier auprès de son maître. Par contre, il mesure les conséquences de ses oublis ou de son désintérêt passé. Et sans plus attendre, il change et ne se laisse aller ni à la résignation, ni à la culpabilité. Et plutôt que de s'enfermer dans un constat amer du genre « il est trop tard », il prend la juste mesure de sa responsabilité, car il est moins tard qu'il ne le pensait. Et de ce fait, il desserre l'étreinte de l'étau de ce qui pouvait être le destin inéluctable dû à son erreur d'hier. Et il entend bien que derrière l'urgence, derrière l'imminence de la catastrophe, il y a un espace, un temps, une patience qui lui ouvre un chemin de responsabilité. Et c'est là le propre de notre foi, de notre confiance dans la vie, du crédit que nous accordons à ce qui nous anime, que d'avoir donc la certitude que présentement, ici et maintenant, peuvent s'inaugurer les regards qui rassurent, les paroles qui relèvent et les gestes qui sauvent. Sans plus tarder, mais avec la conviction qu'un temps nous est accordé, nous pouvons faire en sorte que de même qu'Israël se libéra, de même que les Corinthiens se réconcilièrent, de même que le vigneron prit enfin soin du figuier, de même pouvons-nous faire aujourd'hui ce qui est juste, salutaire et fraternel pour ceux qui, proches ou lointains, parmi lesquels nous vivons, attendent que les frères, les amis, les témoins de celui qui est la vie se mettent à l'œuvre, à savoir ouvrir les portes de la vie bonne et heureuse, une vie qui met à bas les murs de sécurité, les frontières d'indifférence, les armures de mépris qui conduisent au chaos et à la mort. Moïse voulait savoir à qui il avait affaire dans le buisson ardent avant d'aller voir le Pharaon. Il n'eut pas de véritable réponse, mais il eut la certitude que quelqu'un l'envoyait. Ainsi, je suis, le chemin, la vérité et la vie, nous envoie, c'est notre seul bagage. Il est léger à porter, mais sa force est invincible et il comble de joie ceux qui se trouveront sur nos routes. Alors, nous verrons bien et nous saurons bien qui est Dieu. Amen.